Et qu'à midi 30, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Exprimez-vous sur l'actualité de votre choix. Nous sommes vendredi, c'est la libre antenne. Vous aurez la parole évidemment durant les 20 prochaines minutes. Certains d'entre vous nous interpellent sur la condamnation de Marine Le Pen, d'autres sur la révision de la loi d'amnistie au Sénégal. On nous appelle du Tchad également pour nous interpeller sur un drame survenu hier dans une école élémentaire du sud-ouest du pays. Mais d'abord, commençons par le sujet qui a suscité incontestablement le plus grand nombre de réactions au standard d'appel sur l'actualité sur nos réseaux sociaux, la grâce présidentielle accordée en Guinée au capitaine Moussa Dadis Camara pour raison de santé. Moussa Dadis Camara, je vous le rappelle, il est le principal accusé du massacre du 28 septembre 2009. Il a été condamné il y a 8 mois maintenant à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité. Et donc, depuis vendredi dernier, il est libre. Autant vous dire que les familles de victimes comme les organisations de défense des droits humains sont en colère. Une colère que partage Saliou. Bonjour Saliou.
Oui, bonjour Anne Gomez et bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Vous...
Bonjour
à tous vos auditeurs. Merci, vous êtes à Conakry dans la capitale guinéenne. Vous disiez que cette grâce présidentielle était une insulte aux victimes.
Oui, monsieur Anne Gomez, vous savez, moi je ne suis pas contre la grâce accordée à l'ancien président Moussa Dadis Camara. Mais je n'arrive pas à comprendre la raison pour laquelle il a été gracié. Vous savez, la raison qui a été évoquée, c'est pour des raisons de santé.
Oui.
Moi, je pense que Dadis Camara n'est pas le seul détenu politique qui est malade. Il y a d'autres détenus qui sont malades, mais qui ne sont pas bénéficiés d'une liberté d'aller se faire soigner. Je pense que...
Allô ? Salut ? Décidément, on a un problème. On a eu un problème avec le premier auditeur de la première partie. On a maintenant un problème avec le premier auditeur de la deuxième partie. Êtes-vous là, Saliou ? On va essayer de vous rappeler, évidemment, dans un instant. Bonjour, Théophile.
Bonjour, RFI.
Bienvenue, Théophile. Comme beaucoup de Guinéens, vous avez évidemment suivi cette grâce présidentielle. Qu'en pensez-vous ?
Ben, Juan, la grâce est tout à fait normale. Si ce n'était pas la terminologie juridique, je ne l'appellerais même pas grâce, parce que la grâce, c'est ce qu'on obtient sans mériter. On a envoyé un innocent en prison, il fallait qu'on le libère, et le temps même a été pris tardivement. Mais
un innocent, on a envoyé un innocent en prison, c'est-à-dire que vous remettez, vous, totalement en cause le procès du 28 septembre 2009 et la condamnation donc à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité visant Moussa Dadis Camara.
Juan, le procès a été un échec, un fiasco de la justice guinéenne, de tout l'appareil judiciaire guinéen, parce que si vous passez 10 ans à préparer un procès, 10 ans, et vous faites 2 ans de débat, vous n'arrivez pas à établir des culpabilités d'une inculpation, d'un chef d'inculpation, de chapelet d'inculpation contre Moussa Dadis Camara. Et on vient nous dire qu'il fallait qu'il soit condamné pour responsabilité morale. Nous n'avons rien compris. Mmh. On nous a dit qu'il y a eu des charniers à Conakry qu'on n'a pas réussi à nous montrer.
Donc,
on nous a dit que Moussa
donc Dadis vous, on ne va pas refaire le procès, Théophile, excusez-moi. Donc vous remettez en cause le procès qui s'est tenu, procès qui a tout de même été salué par l'ensemble des organisations internationales de défense des droits humains, tout le monde a parlé d'un procès historique. Saliou, vous êtes de retour avec nous. Théophile, à l'instant, votre compatriote, remettez-lui clairement en cause la crédibilité de ce procès. Vous, ce qui vous interpelle surtout, c'est quelles sont les motivations réelles de cette grâce présidentielle ?
Oui, Juan Gomez, vous savez, les raisons évoquées par cette grâce présidentielle, je pense qu'elles sont les raisons de santé.
Officiellement, il est gracié en raison de ses problèmes de santé. Mais vous n'y croyez pas, vous, à cette version, visiblement.
Moi, je ne crois pas parce qu'il n'est pas le seul détenu qui est malade.
Oui.
Il y a d'autres détenus, qui sont malades.
Donc, quelles seraient, Saliou, selon vous, les réelles motivations ? Que cacherait cette grâce présidentielle, selon vous ?
Oui, vous savez, c'est un acte politique, c'est une grâce politique. C'est une décision politique, c'est une façon, disons, de faire adhérer... la Guinée forestière, la région originaire de Moussa Dadis Camara, pour qu'il y ait des mouvements de soutien du côté de la Guinée forestière.
Il y a donc des motivations politiques. On est théoriquement en année électorale. Bon, il y a fort à parier que le général Doumbouya sera candidat à l'élection présidentielle. Donc vous pensez qu'en libérant Moussa Dadis Camara, cela permettra, on va dire, d'avoir déjà une garantie concernant l'électorat de cette région importante, la Guinée forestière?
Oui, oui, bien entendu. Vous savez que jusqu'à présent, la Guinée forestière n'a pas adhéré, il n'y a pas eu de mouvement de soutien du côté de la Guinée forestière. Maintenant, il faut libérer Moussa Dadis Camara pour avoir des armes, pour avoir des soutiens du côté de la Guinée forestière, qui est un électorat très important. Voilà.
Plusieurs observateurs ont effectivement pointé du doigt ces motivations politiques en vue d'une éventuelle élection présidentielle cette année. En tout cas, cette grâce présidentielle fait réagir. L'ONU a d'ailleurs demandé avant-hier, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a demandé que la grâce soit annulé. Merci Saliou, merci également à Théophile. On aurait pu passer la matinée à vous donner la parole, auditeurs et auditrices de Guinée, sur ce sujet. Mais voilà, le principe de la libre antenne, c'est que vous choisissiez le contenu de l'émission et il y a d'autres sujets qui vous interpellent. C'est le cas notamment d'Olivier qui réagit à cette affaire qui secoue en ce moment le principal parti d'opposition de Côte d'Ivoire. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Monsieur Rouen, bonjour à tous les auditeurs dans le monde.
Merci de les saluer. Le PDCI est secoué par une affaire qui concerne directement son président Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, je le rappelle, veut être le candidat de son parti à la présidentielle d'octobre prochain. Pour être éligible, il a donc renoncé il y a peu à la nationalité française. Le problème, c'est que ses détracteurs estiment qu'il n'est plus ivoirien et ils invoquent un article du Code de la nationalité pour dire, il a eu la nationalité française, il l'a demandé de façon volontaire et à partir du moment où on acquiert volontairement une nationalité étrangère, eh bien on perd sa nationalité ivoirienne. Et vous, en tant qu'ivoirien, Olivier, vous disiez au Standard en avoir marre de toutes ces histoires de nationalité dans votre pays.
Oui, Monsieur Wen, le parti au pouvoir avait évoqué en son temps le concept d'ivoirité, je ne sais pas si vous vous en souvenez,
ça a été
largement débattu ici, et on avait dit que c'était une plaie. Le PDC en son temps avait dit que non, c'était un concept culturel et tout ça, on voulait prévaloir l'identité des Ivoiriens. Ils ont dit non, c'était politique, on visait M. Ouattara en son temps. Et ça a été combattu. Aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui sont aux affaires, aux responsabilités. C'est quoi aujourd'hui la leçon qu'ils donnent aux Ivoiriens? C'est quoi le schéma aujourd'hui que l'on donne à la prochaine jeunesse? On entend de leur dire qu'on remet encore sur la table le concept d'ivoirité et en même temps, On combat un futur candidat à la présidentielle.
Alors attendez, Olivier, non, moi je vous écoute attentivement, je vous ai pas interrompu. Donc vous êtes en train de nous dire que cette histoire de nationalité de Tidjane Thiam, elle est mise en avant par le parti au pouvoir?
Oui, exactement, monsieur.
Qu'est-ce qui vous permet de dire cela? Que je sache, mais vous êtes certainement mieux informé que moi, Olivier. Cette affaire, elle démarre après la plainte d'une militante du PDCI. C'est une militante du PDCI, une ancienne membre du bureau politique du parti, pour être très précis, qui saisit la justice pour dire, écoutez, monsieur Tidjane Thiam n'est plus ivoirien, donc n'étant plus ivoirien, il ne peut pas briguer la magistrature suprême. Cette dame, visiblement, elle n'a aucun lien direct avec le parti au pouvoir d'Alassane Ouattara.
Bon, Andrew s'est approuvé aussi, parce que partout, ils ont des petits adeptes aussi, des petits traites aussi, tapis dans l'homme déguisé. Mais c'est pas ça. Monsieur, je vais baser sur un raisonnement très simple. Le président Ouattara, le président de la République, il a reçu M. Thiam en tant que président du PDCI. On sait que pour être ivoirien, pour être président en Côte d'Ivoire d'un parti politique, il faut être ivoirien. Est-ce que aujourd'hui le parti au pouvoir aujourd'hui a dénoncé cette pratique? Est-ce qu'ils ont dit, ne serait-ce que, ils ont donné une seule raison pour dire que non, il n'est pas ivoirien, donc il ne peut pas être candidat à une présidence et en même temps on ne peut pas le recevoir. Ce n'a pas été le cas. Il a été reçu avec tous les honneurs, quand même. Alors après ça, il veut être candidat à la présidence. On lui dit non, il faut être exclusivement ivoirien.
Bien sûr, excusez-moi Olivier, c'est la constitution ivoirienne qui le stipule.
Voilà, merci beaucoup même de, me, de me prêter la force constitutionnelle sur ce sujet. Il faut être, excuse-moi, ivoirien. Ok, le monsieur, il va en France. Il se débat comme il peut. Et il obtient justement, quand on lui enlève cette nationalité française, il revient encore, on lui dit encore non, tu n'es plus ivoirien.
Oui, mais ça, c'est le code de la nationalité qui le stipule, vous voyez. Donc, il y a des statuts, il y a des textes qui sont clairs. Et puis on verra ce que dira le juge, puisqu'un procès a eu lieu, une audience a eu lieu, pardon, ce mercredi. On attend la décision du juge la semaine prochaine, dans tout juste une semaine. Hein, ce sera le 11 avril. Et on verra. Effectivement, ça fait réagir. Je vois que la presse ivoirienne commente largement cette affaire. Merci en tout cas, Olivier, de nous avoir interpellés sur cette actualité. Bonne journée à Abidjan, où il est 8h et bientôt 51 minutes. Bonjour à Bakar.
Bonjour Jean Gomez.
Vous nous avez envoyé cette nuit un message sur WhatsApp. Vous êtes à N'Djamena, au Tchad. Et vous disiez, est-ce que ce sujet peut intéresser la libre antenne? Évidemment, tous les sujets nous intéressent à Bakar. Vous revenez sur ce drame survenu hier dans une école primaire à Pala. C'est dans le sud-ouest du Tchad. Le mur d'une classe s'est effondré sur les élèves.
Merci Jean Gomez. Je commence mes propos, si vous le permettez, en adressant tout d'abord un message aux parents biologiques de ces victimes. Si vous le permettez, chers parents, les mots ne suffisent pas à exprimer notre tristesse. Lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons, il semble que le temps s'arrête, mais nous serons toujours présents à vos côtés en cette période douloureuse. Que l'âme de ces disparus repose en paix.
Abakar, vous disiez être d'autant plus touché que vous êtes vous-même originaire de la ville de Pala.
Je reviens dessus. Je suis originaire de Pala. J'ai passé toute ma vie, la plupart de ma vie à Pala. De l'école primaire jusqu'en classe de terminale, j'ai obtenu mon bac à Pala.
D'accord. Donc vous étiez vous-même dans cette école primaire quand vous étiez plus jeune, évidemment, Abakar?
Non, j'ai fréquenté à l'école du centre de Pala, dont d'ailleurs le cas est presque similaire à cette école.
Que s'est-il passé à Bakar hier alors? Le mur est tombé sur les élèves?
Monsieur Rangomez, hier, aux environs de 8h30, les enfants de l'école primaire de l'EGTH étaient en salle. Et c'est en ce moment, on nous annonce l'effondrement de ce mur sur lequel se trouvaient des enfants innocents. Et parmi lesquels on dénombre 6 morts et plus de 40 blessés.
Effectivement, 40 enfants qui ont immédiatement été conduits à l'hôpital, je précise, parce que je regarde la presse tchadienne pendant que vous me parlez. Effectivement, il y a eu une rapide mobilisation, les autorités de la ville, de la région se sont mobilisées effectivement pour que ces enfants blessés puissent arriver rapidement à l'hôpital. Il y a eu, moi j'ai 5 morts à Bakar comme bilan. En tout cas, il y a eu une réaction également immédiate du chef de l'État, Mahamat Idriss Déby, qui a présenté ses condoléances sur les réseaux sociaux et qui dit « Toute la lumière doit être faite sur ce qui s'est passé et les responsabilités doivent être situées. » Vous, vous mettez en cause la vétusté de l'école?
Oui, M. Rangomez, cette tragédie ne doit pas seulement réveiller la compassion. Elle doit susciter une action immédiate pour garantir la sécurité des enfants et mettre en terme l'abandon des infrastructures éducatives. Et donc, ces écoles vestiges d'une époque révolue, témoignant d'un héritage colonial négligé, devenu aujourd'hui le théâtre d'un drame insoutenable.
L'école date de 1950.
1950. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Comment comprendre que des dirigeants bien conscients et soucieux de l'éducation qui devrait être en réalité une priorité pour un pays normal, ne pas avoir des infrastructures bien adéquates. Alors qu'en 2011, il y a eu une enquête parlementaire qui a, n'est-ce pas, bien prouvé que le Mayo-Kivu-Ouest est une province la mieux instruite
et qui en manque des infrastructures scolaires.
Bon, Abakar, je suis désolé, je comprends votre, à la fois votre colère et à la fois votre émotion, bien évidemment. En tout cas, je vous remercie. Vous voyez, il suffit d'envoyer un WhatsApp. Vous doutiez que ce sujet pouvait nous intéresser, mais tous les sujets nous intéressent, je le dis à chaque fois, tous les vendredis, et ce ne sont pas des paroles en l'air. Merci Abakar, en tout cas, de votre confiance. Bonne journée à Djamena, malgré ce drame survenu hier dans votre la ville dont vous êtes originaire, la ville de Pala, et on pense évidemment aux habitants et aux parents de ces élèves. Il nous reste 5 minutes, il y avait encore tellement de sujets que nous pouvions évoquer ce matin dans la Libre Antenne. On va terminer quand même avec Ambroise qui veut absolument pousser un coup de gueule. C'est un peu le principe de la Libre Antenne, me direz-vous. Bonjour Ambroise.
Bonjour Juan Gomez.
En région
Bonjour
parisienne.
Bonjour à tous les auditeurs, oui.
Un coup de gueule après la condamnation de Marine Le Pen et surtout de l'appel, puisqu'elle a fait appel de sa condamnation.
Oui, en fait, au-delà de l'appel de Madame Le Pen, hein, parce que je trouve que Madame Le Pen, elle est élue de la République, et c'est la République, c'est les députés sont des représentants de la population qui font les lois, qui votent les lois. Madame Le Pen, quand on vote cette loi qui l'a punie aujourd'hui, s'est abstenue à cette époque. Elle ne pensait peut-être pas que cette loi pourrait la rattraper. Aujourd'hui, elle est rattrapée par cette loi. Mais ce n'est pas tant son appel qui me frustre, qui me met mal à l'aise et qui devait mettre la France entière mal à l'aise.
Alors c'est quoi ?
Et même, il y a au-delà, je pense, quelque chose de probité morale. C'est que hier, écoutez-moi bien, hier soir, je regardais les informations sur une chaîne de télé. Il y a une famille qui a perdu, dont la maman, semble-t-il, a tué un enfant bon. Sur l'autoroute à 10.
Ambroise, on va pas refaire, excusez-moi, allons droit au but. Qu'est-ce qui vous choque dans l'appel de Marine Le Pen, Ambroise ? Excusez-moi, ça fait 2 minutes que vous parlez, sinon je donne la parole à d'autres auditeurs.
Voilà, c'est que, au fait, comment... Aujourd'hui, quelle est cette mansuétude qu'il y a de la part du tribunal, du parquet de Paris, à abréger la période pour donner à Marine Le Pen la possibilité de faire appel aussi rapidement que possible.
Ah, ce qui vous choque, en fait, c'est que la Cour d'appel de Paris dise « on va examiner le dossier Marine Le Pen le plus vite possible ».
Oui, cette voilà. mansuétude-là, je ne la comprends pas.
Vous ne la comprenez pas. Alors, quand on normal, quand on fait appel, il faut compter 18 mois. La moyenne, c'est 18 mois. Et là, on voit bien qu'il y a une volonté de la part de la Cour d'appel de Paris de rendre une décision avant l'été 2025, donc d'ici une année. Après, ça ne vous a pas échappé, Ambroise, il y a une échéance électorale.
Oui, mais
une échéance présidentielle. Marine Le Pen est aujourd'hui en tête dans les intentions de vote.
Oui, mais excusez-moi, donc aujourd'hui en France, il faut avoir le statut de futur candidat pour profiter de la mansuétude des tribunaux.
Donc, vous êtes en train de nous dire que Marine Le Pen, finalement, n'est pas une justiciable comme les autres.
Voilà,
elle exactement. A un privilège.
Elle a un privilège. Donc, on nous avait dit que les privilèges étaient abolis en France, et voilà qu'on on nous sort ça, et on va critiquer ce qui se passe ailleurs. Je trouve ça inacceptable pour un pays comme la France, vraiment qui se veut la championne d'une certaine probité morale. On ne peut pas le faire, on ne devrait pas accéder à ce genre de choses.
Ambroise, j'ai peu le temps, il me reste une minute, je ne peux pas prendre d'autres auditeurs en si peu de temps sur également cette actualité concernant Marine Le Pen. En deux mots, Ambroise, vous avez été, vous, surpris ou pas d'apprendre qu'elle a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat ?
Écoutez, moi, ça ne m'a pas surpris. Hein. Elle a détourné de l'argent d'une certaine manière, il fallait qu'elle soit condamnée.
Donc, ce n'est pas une décision politique, comme l'affirme Marine Le Pen et tous les cadres de son parti.
Non, je crois que, en fait, on veut toujours accuser la justice en France quand elle rend une justice en faveur, on applaudit. Quand elle rencontre, on est vent debout contre cette même justice.
Ce sera votre mot de la fin et la fin de cette émission. Merci Ambroise, désolé pour tous ceux qui patientaient au standard et qui souhaitaient également, comme Ambroise, commenter la condamnation de Marine Le Pen. On aura bien évidemment l'occasion d'y revenir. On sera de retour lundi, 8h10, temps universel. Lundi, on parlera du Gabon. On sera vraiment dans la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle du 12 avril. Vos témoignages, évidemment, nous intéressent sur la campagne électorale. Vos analyses également sur le programme des 8 candidats qui sont en lice. D'ailleurs, RFI donne la parole à tous les candidats et les interviews sont à retrouver dans un article spécifique sur notre site rfi.fr et on lancera le débat. Pensez-vous que le scrutin se jouera en un seul tour? Merci à tous, passez une excellente fin de semaine, prenez soin de vous et à lundi, 8h TU.
L'appli de Banque Atlantique, Atlantique Mobile, la meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandit.